France Culture. Le journal Estelle Caméraire.
Bonjour à toutes et à tous. La mobilisation continue à Radio France contre le regroupement des entreprises de l'audiovisuel public et les radios privées s'inquiètent aussi. Les soldats israéliens auraient-ils l'ordre de tirer sur des civils pendant les distributions d'aide alimentaire à Gaza ? C'est ce qu'affirme un journal israélien, nous serons en Cisjordanie. 40 ans de fête du cinéma en France, l'édition 2025 commence aujourd'hui. Retour sur le succès de l'opération. La mobilisation se poursuit à Radio France contre diverses mesures internes et la création d'une holding visant à regrouper les entreprises de l'audiovisuel public. Le texte doit être examiné demain à l'Assemblée nationale et les radios privées sont particulièrement attentives à un amendement relatif à la publicité. Actuellement, elle est plafonnée en valeur et en volume à la radio, à la télé, mais pas sur le web. La proposition de loi prévoit de la limiter en valeur sur tous les supports. Le gouvernement n'y est pas favorable et a déposé en commission un amendement qui ne reprend pas cette mesure. La députée Renaissance Céline Calvez a, elle, fait adopter en commission un autre amendement qui prévoit une limitation de la publicité en volume uniquement sur tous les supports. C'est donc une mesure qui fait débat et cela inquiète l'Alliance de la radio qui regroupe la quasi-totalité des radios privées. Céline Durand-Girard, la déléguée générale.
On souhaite éviter toute assimilation en fait des antennes du service public à des antennes commerciales, tout simplement parce que l'Alliance de la radio représente l'ensemble des acteurs privés de la radio en France. C'est un paysage qui est très dynamique, c'est un paysage dont tout le monde s'enorgueillit, si j'ose dire, au-delà de nos frontières et loue la qualité et la diversité. Mais pour être aussi diverse, il a besoin d'une ressource et nous, la seule ressource existante, c'est celle commerciale, en fait, c'est celle d'aller sur le marché publicitaire se financer. Donc, en fait, on a besoin aujourd'hui qu'il préserve dans ses enjeux de holding un équilibre, en fait, qui est un équilibre global pour tout le paysage radiophonique, avoir la capacité d'avoir des acteurs privés performants, pertinents, qu'ils soient nationaux, locaux, thématiques, régionaux, partout sur le territoire, aux côtés des acteurs du service public qui, eux, ont des missions spécifiques. Donc, dans le cadre de cette holding, on va s'assurer d'encadrer et de contrôler vraiment ce plafond, qu'il soit en valeur et en durée de diffusion de publicité sur les antennes linéaires comme sur les services numériques. Ça, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est encadré et pourtant, c'est un enjeu important puisque vous savez aussi que sur le numérique, c'est là où il y a aussi des leviers sur l'audio digital pour tous les acteurs de l'audio en France, à radio publique, financement public et pour compléter à radio privée, financement privé, voilà, sur le marché publicitaire.
Céline Durand-Girard répondait aux questions de Fiona Mogadam. La France se tient prête, l'Europe aussi, à concourir à la sécurité des distributions alimentaires. Les déclarations du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, sur LCI. Il souhaite traiter du détournement par des groupes armés de cette aide humanitaire, faisant référence, sans le citer, au groupe islamiste palestinien du Hamas. D'après le journal israélien Haaretz, ce n'est pas le Hamas, mais l'armée israélienne qui détourne l'aide alimentaire. Les soldats israéliens auraient ordre de tirer sur des civils non armés à Gaza lors des distributions. C'est ce qu'affirme le journal sur la base de témoignages de soldats. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou parle de diffamation et de fausses informations. L'armée dément elle aussi. Mais depuis un mois et le début des distributions d'aide assurées par la controversée Gaza Humanitarian Foundation, mise en place par Israël et les États-Unis, les distributions d'aide alimentaire se termine régulièrement en bain de sang. D'après le ministère de la Santé de Gaza, 549 personnes ont été tuées en un mois. Pour les Palestiniens de Cisjordanie qui visionnent ces scènes régulièrement, l'intention de tuer les civils ne fait aucun doute. Reportage de notre correspondante dans la région, Alice Moreno.
Il hésite d'abord à s'exprimer par peur de représailles de l'armée israélienne, mais Yassine finit par parler. Il n'a que trop vu ces vidéos de tuerie à Gaza.
Aux informations, on ne voit que la mort. Chaque jour, la mort, rien que la mort.
Il pense en particulier aux images de ces Gazaouis pris pour cible sur les points de distribution d'aide alimentaire.
C'est ce que j'ai vu à la télévision. Les gens vont au point de distribution puis se mettent à courir dans la direction opposée. Pourquoi ? Alors qu'ils vont juste chercher à manger.
Pour chacun ici à Ramallah, l'intention de tuer est évidente. Les soldats israéliens profitent, selon eux, du rassemblement de population pour tirer.
L'occupation dit aux habitants de venir dans une zone. Quand les habitants arrivent dans ce secteur, il n'y a rien que des snipers et des avions. En réalité, ils tendent une embuscade aux civils. Les civils n'ont rien à voir avec cette guerre, où que ce soit. Les civils veulent juste survivre. Les forces d'occupation tirent sans distinction sur les jeunes, les vieux, les femmes et les enfants. Ils vont juste chercher un morceau de pain et ils trouvent la mort.
Entre deux courses, Maïssa prend quelques minutes pour dénoncer ce qu'elle appelle une machine à tuer.
Cette guerre doit s'arrêter, c'est un génocide. L'aide doit entrer dans Gaza et les enfants doivent être nourris.
Les autorités israéliennes démentent les accusations de tirs délibérés sur des civils sur les points de distribution alimentaire. Mais un des soldats cités par le journal israélien Haaretz parle bien de champ de bataille.
Alice Moreno. Et l'attaque israélienne contre la prison d'Evin à Téhéran lundi dernier a fait 71 morts. Le pouvoir judiciaire iranien a annoncé les chiffres ce matin des opposants et des détenus étrangers ou binationaux dont les otages français Cécile Kohler et Jacques Paris étaient détenus dans la prison au moment des frappes mais n'auraient pas été touchés. La France traverse une période de canicule intense ce week-end qui devrait se prolonger en début de semaine. Des vagues de chaleur qui se rapprochent et se multiplient, mais de nombreux logements ne sont pas du tout adaptés. L'an dernier, 44% des foyers ont déclaré avoir souffert de la chaleur dans leur logement. Les locataires, les plus jeunes et les habitants des quartiers populaires sont plus exposés aux fortes chaleurs dans ce qu'on appelle les appartements bouilloires. Clémentine vit à Paris dans un petit studio sous les toits depuis 2 ans. Lors des vagues de chaleur, il est à peine vivable.
C'est mon deuxième été dans cet appartement. Moi, ce que je fais quand il fait très chaud, puisque j'ai pas de volet, je ferme mon rideau au maximum. C'est un rideau quand même qui est assez occultant, mais comme l'espace est petit, j'arrive pas à fermer non plus le rideau en entier, puisqu'il y a des meubles qui gênent un peu. À part le ventilateur, j'ai aucun moyen en fait de me rafraîchir. J'évite notamment par exemple de faire du télétravail ou des choses comme ça pour ne pas être chez moi en journée puisque du coup c'est invivable. Le soir du coup c'est un petit peu pareil, même si tard le soir je peux entrouvrir un petit peu la fenêtre justement pour avoir de la fraîcheur. Ce que je fais la plupart du temps c'est que je subis un petit peu. Ça a aussi des impacts sur la qualité du sommeil. C'est assez stressant d'avoir le sentiment du coup d'être oppressé aussi par toute cette chaleur-là quoi, et ce petit espace. Là, par exemple, je suis en recherche d'appartement et je vois à quel point c'est compliqué de trouver quelque chose. Déjà, je regarde s'il y a des volets et aussi sur l'isolation des bâtiments. Moi, c'est vrai que je l'avais visité, l'appartement dans lequel je vis en octobre, où il faisait ni trop chaud ni trop froid. Je suis passée à côté de gros inconvénients de ce logement.
Une proposition de loi transpartisane pour adapter les logements et protéger leurs occupants a été déposée jeudi dernier à l'Assemblée nationale. La fête du cinéma souffle cette année ses 40 bougies. L'édition 2025 a débuté ce matin et se poursuit jusqu'à mardi. Le ticket est à 5 euros dans les salles partenaires en métropole et en Outre-mer. Un événement lancé en 1985 à l'initiative de la Fédération nationale des cinémas français avec le ministère de la Culture. À l'époque, l'objectif est de renflouer les caisses des cinémas fragilisées par la télé, la VHS et les films du dimanche soir. 40 ans plus tard, l'opération s'est durablement installée dans le paysage cinématographique. Reportage de Chloé Geffroy.
L'année dernière, la fête du cinéma a battu son record historique d'entrée. Plus de 4,5 millions de spectateurs attirés par la comédie d'Artus, un petit truc en plus, et le Comte de Monte Cristo. Marc-Olivier Sebag, délégué général de la Fédération nationale des cinémas français.
La fête du cinéma est un événement qui est particulièrement stable et particulièrement recherché par les spectateurs. Par exemple, en 2021, année Covid, la fête du cinéma a fait plus de 3 millions d'entrées, c'est-à-dire que le même nombre d'entrées qu'en 2017-2019. Donc, on voit bien que l'affect des spectateurs, l'attachement des spectateurs pour la fête du cinéma, il est vraiment constant.
Plusieurs facteurs à ce succès, à commencer par le prix. 5 euros la séance, un tarif unique, motivant pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de côtoyer les salles obscures.
L'avantage de la réduction tarifaire de la fête du cinéma, c'est aussi qu'on peut aller voir plusieurs films, le plus évident, dont on entend le plus parler, et puis celui dont on entend un peu parler ou qu'on a raté parce qu'il est sorti il y a quelques semaines, ou celui qui est plus confidentiel et qu'on va vouloir voir à ce moment-là.
Un choix large de films avec tout de même en tête d'affiche des blockbusters, plusieurs grosses productions productions ont calé leur sortie au moment de la fête du cinéma, alors profite-t-elle autant aux distributeurs indépendants? Éric Lagesse, président de la société Pyramide.
Évidemment, elle profite plus à certains qu'à d'autres. C'est clair que la position de Pathé qui sort 13 jours, 13 nuits, à 2 jours de la fête du cinéma, je pense qu'ils essayent de faire un peu comme Monte Cristo l'année dernière, c'est le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de films qui sortent.
Des films qui risquent par ailleurs de redonner le sourire aux professionnels du secteur. Au mois de mai, la fréquentation des salles a chuté de 25% par rapport à l'année passée.
Les salles de cinéma où l'on peut se réfugier pendant la canicule. 73 départements en vigilance orange aujourd'hui. Les pics de chaleur atteindront les 38 degrés. 9h10 sur France Culture, c'est la fin de journal. C'est réalisé par Antoine Boucher.